Et c'est avec vous. Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
À la une, un nouveau samedi de blocage des Gilets jaunes en France, un samedi à risque.
Oui, la journée d'aujourd'hui va être cruciale, prévient le journal La République des Pyrénées, car outre les Gilets jaunes, il y aura aussi les Gilets rouges de la CGT qui manifesteront dans Paris, plus certains lycéens, plus des étudiants mobilisés contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étrangers, plus certains mouvements de banlieusards n'en jetaient plus. Pour le troisième acte de leur protéiforme mouvement de protestation, les Gilets jaunes donc ont prévu de manifester leur colère dans toute la France, tout particulièrement dans la capitale. Les Gilets jaunes, c'est, je cite, le bordel organisé, bûcheronne le courrier Picard, c'est la chienlit. Et ce quotidien du centre-nord de la France prévient, c'est maintenant que le quinquennat se joue.
Alors justement Norbert, les risques de ce samedi, quels sont-ils ?
Eh bien selon une note confidentielle de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, consultée par le journal Le Parisien, trois projets de rassemblement ont été identifiés par les autorités, dont deux qui ont été déclarés. Déposés par un particulier, le premier prévoit un itinéraire autour de la porte Maillot et du boulevard périphérique intérieur, rapporte Le Parisien. Le second envisage un rassemblement place de la République. Le troisième est inédit, souligne ce quotidien. Il a été lancé par un collectif baptisé Banlieue Respect qui appelle à la mobilisation aux abords du 73 avenue des Champs-Élysées afin d'apporter le soutien des banlieues au mouvement. Et ce matin, le quotidien Le Figaro lance en une sorte de halte-au-feu en soulignant que parmi les principales victimes de ce mouvement des Gilets jaunes figurent bien souvent ces salariés, ces commerçants, ces artisans que les révoltés prétendent défendre. Il est plus que temps d'en finir avec ce grand gâchis, exhorte ce journal.
Autre victime de ce mouvement, bien sûr, le président Macron lui-même.
Oui, ce matin, à la une de Libération, Emmanuel Macron est éclaboussé par la fièvre.
Jaune, bien sûr.
Oui. Face à ce mouvement hétéroclite, très largement soutenu par la population, Macron est inaudible, souligne ce journal, selon lequel la France n'est pas loin d'une insurrection. En tout cas, remarque Libé pour s'en inquiéter, ce mouvement des Gilets jaunes n'a pas de précédent. Peut-être les sans-culottes, avec un gilet jaune qui remplace le pantalon tricolore. Les cahiers de doléances se retrouvent sur Facebook. Le tiers-état s'estime hors de la cité et vilipende l'aristocratie de la politique et de l'administration. Emmanuel Macron, par ses maladresses successives, prend le rôle non de Louis XVI, mais de Marie-Antoinette, ce qui est encore moins confortable face à un peuple qui se sent méprisé. Poussant plus loin encore l'analogie révolutionnaire, Libération relève aussi qu'au fond, une seule exigence réunit les contestataires, la disparition d'Emmanuel Macron ou à tout le moins sa capitulation, une guillotine symbolique. Jupiter ne tient plus la foudre. Elle lui tombe sur la tête.
Symbolique, heureusement, pour le président français. Au Mexique, c'est aujourd'hui l'investiture du nouveau président Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, c'est son acronyme, un président de gauche.
Et oui, dans une Amérique latine dominée par la droite, AMLO, nouvelle figure de la gauche, a érigé le combat contre la pauvreté et les inégalités en priorité essentielle, souligne Libération, qui se demande toutefois si le nouveau locataire du palais présidentiel à Mexico ne va pas transformer son pays en camp pour réfugiés refoulés aux portes des États-Unis, étant rappelé les caravanes de migrants centra-américains ayant traversé le Mexique ces trois derniers mois pour venir buter sur la frontière nord avec les États-Unis, et la volonté de l'administration Trump de forcer les demandeurs d'asile à attendre que leur dossier soit étudié au Mexique. Mais la priorité du nouveau président mexicain est la sécurité. Alors, pour enrayer l'insécurité, AMLO a son plan de paix et de sécurité qui prévoit de combattre la corruption et la pauvreté tout en instaurant une amnistie partielle dont seraient exclus les grands criminels pour forcer une démobilisation de la main-d'œuvre des cartels. La corruption, AMLO a déjà annulé la construction du nouvel aéroport de Mexico qu'il considérait comme un nid de contrats véreux, pointe Libé, lequel quotidien rappelle que le nouveau presidente de la República Mexicana veut installer le peuple au pouvoir et pour cela le consulter souvent par voie référendaire. Et Libération souligne qu'à Mexico, nombre de ses opposants rappellent à AMLO qu'il a été élu pour prendre des décisions et non pas pour les délégués.
De nouveau dans l'affaire Jamal Khashoggi, le 12 novembre déjà, le ministre français des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'il disait, savait ce qui s'était passé au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
Oui, alors pourquoi le 12 novembre ? Eh bien parce que ce soir-là, sur le plateau de la chaîne de télévision France 2, Jean-Yves Le Drian avait nié avoir eu connaissance de l'enregistrement audio du martyr du journaliste saoudien, enregistrement que les autorités turques avaient complaisamment fait fuiter. Selon Mediapart, 7 diplomates et fonctionnaires du renseignement français ont confirmé que le Quai d'Orsay, à son plus haut niveau, avait bien eu accès à ces enregistrements à la date où le ministre s'exprimait. Selon une autre source au Quai d'Orsay citée par Mediapart, Paris disposait des informations turques, dont un fichier audio dès la dernière semaine d'octobre. Selon ce journal en ligne, en mentant sur les informations dont il disposait, Jean-Yves Le Drian a exposé la compromission de la France avec un des régimes les plus criminels de la planète. Je cite bien sûr Mediapart.
Un mot enfin de la mort de George Bush père que seule la presse française sur Internet évidemment évoque ce matin.
Oui, pour l'heure, les journaux français se bornent à relayer la nouvelle sans commentaire sur Wikipédia. À noter tout de même que sur Wikipédia, la biographie de George Herbert Walker Bush a déjà été actualisée. Ce site internet fixant sa mort à la minute près le 1er décembre 2018 à 0h03 à Kennebunkport à l'âge de 94 ans.
Merci beaucoup Norbert Navarro pour la revue de presse. Soignez-vous, on sent que vous avez le nez un petit peu bouché. Ça ne vous a pas empêché d'avoir l'accent espagnol aujourd'hui. C'était assez impressionnant.
Mexicain même.
Restez avec nous dans une poignée de secondes, l'actualité africaine.